Mais ce soir, je veux commencer par une question, en fait. Qui sont vos ennemis? Qui sont vos ennemis? Qu'est-ce qui vous menace? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? L'ennemi n'est pas toujours quelqu'un non plus. Il faut être clair sur cette question-là. Ça peut être quelque chose aussi. Dans la politique, on entend fréquemment des discours sur les ennemis de l'État, par exemple, les ennemis de la liberté, les ennemis de la démocratie. Dans le discours public, on parle peut-être des ennemis de la raison ou de la libre expression. Certaines choses sont, nous semblent d'être l'ennemi de la science ou du progrès. Il y a les ennemis de la santé aussi. Il y a aussi les ennemis de la tranquillité dans la vie. En fait, il existe toutes sortes d'adversaires au bien-être, n'est-ce pas? Alors, qui sont vos ennemis à vous? Et quand je vous pose cette question, je ne veux pas que vous produisez une liste de personnes que vous n'aimez pas. Ce n'est pas ça l'idée derrière cette question. C'est plus subtil que ça, à mon avis. Si nous nous posons cette question en tant que chrétiens, il est évident que nos ennemis, nos adversaires, sont en fait tout ce qui s'oppose à Dieu. Nos ennemis sont les pouvoirs spirituels. Nos ennemis consistent en toute idéologie, philosophie, vision du monde qui contredit l'évangile. Nos ennemis, ce sont des fardeaux, des soucis, le manque de foi, le découragement que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Un des pires ennemis qui nous menace, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Un autre, c'est la mort. Nous, les chrétiens, nous sommes entourés d'ennemis de la foi. Mais notre Dieu ne nous abandonne pas. Dans sa souveraineté, Dieu a une réponse à ses ennemis. Et aujourd'hui, nous allons étudier comment Dieu répond à ceux qui menacent son peuple. Depuis quelques semaines, j'avais envie que nous étudiassions la suite de Nahum. J'avais hâte que nous reprissions notre étude de ce livre obscur de l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier la suite de Nahum en lisant les chapitres 2 et 3. On va découvrir dans ce texte que la colère de Dieu nous défend contre nos ennemis. La colère de Dieu nous défend contre nos ennemis. Et je vais inviter Christophe à venir lire ces deux chapitres pour nous.
Maintenant, vous avez le temps de trouver Nahum. On va lire les chapitres 2 et 3. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs ceps. Les boucliers de ses héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le flair qui étincelle apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans les campagnes, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ses vaillants hommes, mais ils chancèlent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait. Ninive est mise à nu. Elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage de lanceaux? Où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voilà, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens, innombrables, faisaient sa force. Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forceresses sont comme des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue, foule l'argile. Rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera. Te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme les sauterelles qui couvrent les ailes et s'envolent. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes chefs, comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît. Elles s'envolent, et l'on ne reconnaît plus le lieu où ils étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes se reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint?
Merci Christophe pour cette lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, fais en sorte que nous mettions dans notre cœur, dans notre âme, ta parole ce soir. Aide-nous à te connaître, Seigneur, par cette parole, de mettre en pratique tes commandements. Au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 semaines, nous avons étudié le chapitre 1 de Nahum, qui nous a appris que la colère de Dieu contre le mal représente sa bienveillance envers sa création. La colère de Dieu contre le péché et contre le mal représente son amour pour son peuple. Ça représente son juste jugement. En fait, le livre de Nahum, qui parle du jugement de Dieu contre la vie de Ninive, nous fait comprendre pourquoi la colère de Dieu est une bonne chose. Et dans la suite de ce livre, on va découvrir que la colère de Dieu nous défend contre nos ennemis. Ce texte soulève l'idée que les ennemis de Dieu se soumettront à sa colère. Il n'y a rien qui échappe à son souveraineté. Dieu est souverain sur le destin de toutes les nations. Même les gens, les nations qui ne reconnaissent pas son autorité, se soumettront à sa volonté. Et dans le texte de Nahum, le prophète nous affirme que la ville de Ninive se soumettra aussi à Dieu. Rappelez-vous que la ville de Ninive était à la tête d'une nation qui rejetait l'appel de Dieu à la repentance, les Assyriens. Oui, c'est vrai que elle s'est repentie temporairement grâce à la prédication du prophète Jonas quelques années avant. Mais tout de suite après, à l'époque de Nahum, elle avait déjà oublié le vrai Dieu et son avertissement contre leur méchanceté. Mais Dieu, de son côté, ne l'a pas oublié. Même après l'avertissement, les gens de Ninive n'ont pas respecté la loi de Dieu. Même après que Dieu a massacré leur armée devant la ville de Jérusalem, ils ont fermé leurs yeux à Dieu, en pensant que peut-être le Dieu d'Israël les laisserait tranquilles s'ils ignoraient lui et sa loi, ses commandements. Mais Dieu ne disparaît pas si on l'ignore, vous voyez? Dieu ne révoque pas son jugement si on fait semblant qu'il n'existe pas. Notre incrédulité volontaire, notre ignorance intentionnelle ne signifie pas que Dieu ne nous voit pas, finalement. Les choses ne fonctionnent pas de cette façon. On ne peut pas ignorer Dieu afin de le faire disparaître. Imaginez que vous receviez les formulaires de déclaration de revenus dans votre boîte aux lettres un jour. L'enveloppe, on n'est pas obligé d'imaginer, ça arrive, n'est-ce pas? L'enveloppe est clairement marquée, bureau d'imposition. Il est évident que ce document vient de l'État. C'est un communiqué officiel. Il n'y a pas de doute. Mais vous mettez de côté l'enveloppe sans l'ouvrir. Vous pensez que si vous ne l'ouvrez pas, si vous ne remplissez pas votre déclaration, il n'y aura pas de soucis, pas de conséquences. Peut-être que tous les impôts que vous devez disparaîtront par magie si seulement vous les ignorez. Peut-être que personne ne remarquera. Et de la même façon, nous ne devrions pas penser qu'en ignorant l'appel de Dieu à la repentance, il n'y aura pas de conséquences. Les Ninivites ont ignoré la loi de Dieu, l'avertissement de Dieu. Mais deuxièmement, ils avaient de l'orgueil devant Dieu aussi. Ils se cachaient derrière leur forteresse impénétrable. Mais pareil, nous ne pouvons pas penser que notre pouvoir, notre force, notre volonté sont supérieurs à ceux de Dieu. Au chapitre 3, les versets 8 et 9 prennent comme exemple la ville de Naaman en Égypte, qui était une véritable forteresse entourée par des alliés puissants. Mais même cette ville résistante était soumise à la souveraineté de Dieu quand il a permis aux Assyriens de l'anéantir. Nahum prophétise que la ville de Ninive subira le même sort. Ni l'ignorance face à Dieu, ni l'orgueil face à Dieu ne les sauvera. Les ennemis de Dieu se soumettront à sa juste colère. Dieu est souverain. Et on est d'accord, peut-être que Dieu est souverain, Dieu le créateur de l'univers, il est souverain sur sa création, sur ses ennemis. Mais ça ne répond pas à la question de comment reconnaître les ennemis de Dieu, finalement. Comment reconnaître les ennemis de Dieu? Pour comprendre qui sont les ennemis de Dieu, il suffit de regarder leurs fruits, finalement. Et selon ce que nous disons, la Bible et l'histoire, le fruit de Ninive, c'était la rébellion, c'était la violence, c'était la mort. Le fruit de Ninive et des Assyriens, c'était l'orgueil de leur puissance. Comme on a vu dans la première partie de cette série, Ninive était la terreur du monde antique. Le fruit de sa puissance, c'était la brutalité et la barbarie. La ville est décrite par Nahum comme une fosse aux lions, chapitre 2, versets 12 et 14. C'est décrit comme une ville sanguinaire remplie de mensonges et de violences, dans le verset 1 du chapitre 3. C'est décrit comme une prostituée, dans le verset 4. Il y a quelques semaines, nous avons examiné une longue liste des péchés du peuple d'Assyrie. C'est une longue liste. On a examiné toutes leurs innovations en termes de torture et de cruauté. On a étudié leur créativité artistique et comment ils ont fait des monuments avec des parties de corps humains qu'ils ont coupés en morceaux pour le plaisir. Après tout, pourquoi bâtir des monuments en or ou en argent quand on peut le faire avec des crânes humains, n'est-ce pas? C'est plus intéressant. Pourquoi vaincre des villes voisines ou voisines quand on peut aussi découper leur population en morceaux et écraser leurs enfants juste pour plaisir? C'est plus amusant comme ça, n'est-ce pas? Les Assyriens, avec la ville de Ninive à sa tête, étaient obsédés par la violence, par la destruction, par l'idolâtrie. Il était fréquent que les gens de Ninive se moquaient de l'Éternel, le Seigneur, en louant des faux dieux. Ils se sont moqués de Dieu en envahissant le territoire du nord d'Israël, même si Dieu les a utilisés pour punir le peuple d'Israël. Mais les Ninivites avaient pris le peuple de Dieu en esclavage. Ils avaient commis des actes de violence contre le peuple de Dieu. Ils étaient méchants. Ce n'est pas comme s'ils ont volé tous les bonbons des enfants ou dégonflé les pneus de toutes les voitures en Israël juste pour plaisir. Ce n'est pas comme s'ils ont fait des graffitis sur les murs. Non, ils étaient vraiment méchants, violents. Et donc, je vous rappelle le fait que Dieu n'est pas en colère sans raison. Il n'est pas en colère sans raison contre les Assyriens, contre la ville de Ninive. Dieu n'est pas en colère sans raison comme dans les mythologies. Il n'est pas comme les faux dieux du monde entier qui se fâchent à chaque fois qu'ils rencontrent un être humain plus beau qu'eux. Le Dieu de la Bible n'est pas comme un dieu mythologique qui s'énerve quand il fait tomber sa tasse de café sur la moquette, par exemple, et il crie par conséquent. Il n'est pas un dieu qui frappe ses enfants de colère quand il boit trop. Vous voyez? La colère de Dieu est sainte et juste contre ses ennemis. La colère de Dieu est sainte et juste contre l'ennemi qui est l'idolâtrie. L'ennemi qui est la rébellion contre ses lois, l'ennemi qui est l'orgueil, l'ennemi qui est la mort. Tout ce qui contredit la sainteté de Dieu et qui porte des fruits néfastes sera jugé finalement. Je vous rappelle que la colère de Dieu est toujours bien orientée vers le vrai mal. Comme le dit le chapitre 1 de Nahum, Dieu est jaloux. Il se défend, il se venge de ses adversaires. Les ennemis de Dieu seront vaincus. À un moment donné, ils cesseront d'exister. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec la ville de Ninive, finalement. Par le jugement de Dieu, Ninive a cessé d'exister. Dieu a fait exactement ce qu'il avait promis qu'il ferait. Regardez le langage employé par le prophète Nahum dans ce texte. « Malheur à la ville sanguinaire », le texte dit. « Me voici contre toi. Je montrerai ta nudité aux nations. Je jetterai sur toi des ordures. Je te flétrirai. Je te donnerai en spectacle. » Et en fin de compte, Dieu a fait exactement ça. Aux mains des Babyloniens, un peuple voisin, la ville de Ninive a été moulue en poudre, vraiment réduite en poussière. Nahum, chapitre 3, verset 19 dit, « Il n'y a point de soulagement à ta blessure. Ta plaie est mortelle. » Et comme Nahum l'a prophétisé, la dévastation de Ninive a été complète. Les traces de la ville ont été ensevelies dans le désert. La destruction a été tellement sévère que les traces de la ville n'ont été retrouvées qu'au XIXe siècle. Dieu a utilisé les Babyloniens pour punir l'empire d'Assyrie. Il les a frappés de toute sa puissance. Des chairs, des chevaux, des tours de siège, des milliers de soldats, des hélicoptères, des tanks, des lance-pierres, des bombes à eau, des éplucheurs de légumes, des gaz, du gaz lacrymogène, tout genre de choses. Peut-être j'ai ajouté quelques-uns, mais vous comprenez l'idée ici, n'est-ce pas? Quand Dieu en a fini avec Ninive, elle ne ressemblait plus à une ville, mais plutôt à quelque chose qui se trouve au fond d'une poubelle chez Alex. Ça, c'est pas du joli, tout ça, n'est-ce pas? Les ennemis de Dieu seront vaincus. Dieu se venge et la colère de Dieu protège les fidèles, comme il a promis à son peuple en Exode chapitre 23. Où il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Comme on l'a vu au chapitre 1 de Nahum, on doit aimer la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu contre ses ennemis représente son amour pour son peuple. Dieu est comme une maman ours qui défend ses petits oursons. Alors normalement, les ours ne posent pas beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Ils ne sont pas très agressifs. J'ai habité dans une région des États-Unis où les ours habitent vraiment à côté des hommes. J'ai croisé des ours plusieurs fois en marchant dans la forêt. Ils se sont enfouis à chaque fois. Ils ne sont pas très agressifs. J'avais des ours qui essaient souvent d'ouvrir les poubelles devant la maison dans la nuit pour manger des déchets. Tout simplement. En fait, une fois à 2h du matin, j'ai entendu un bruit dehors et je me suis levé. Et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ours à 1 mètre de moi. C'était impressionnant. Il m'a regardé, il a poussé un grognement, il a continué à manger sa croûte de pizza tranquillement comme si j'étais pas là. Et tout ça, c'est juste pour vous dire qu'un ours dans le bois, c'est pas forcément un souci. Mais par contre, une ours avec ses oursons, ça c'est autre chose. Une femelle qui protège son bébé, c'est un tueur impitoyable. Si elle pense que son bébé est en danger, si elle pense que vous êtes une menace, vous allez passer un très mauvais reste de la journée, je vous assure. Tout ce qui menace ces oursons, la maman ours va le détruire. Et notre Dieu n'est pas très différent d'une maman qui protège ses enfants, qui venge ses enfants. Mais contrairement à une ours qui le fait par instinct, Dieu le fait par amour pour son peuple. Il le fait par amour pour ses enfants. Il le fait par amour pour le peuple qu'il a choisi. Nahum nous fait comprendre que la colère de Dieu nous défend contre nos ennemis. Le texte de Nahum nous montre que la colère de Dieu est une bonne chose. La colère de Dieu se manifeste dans son juste jugement. La colère de Dieu découle de sa sainteté. Et quand Dieu montre sa colère contre le mal, c'est un signe que Dieu aime. Il aime et il protège les fidèles. Il protège son Église. La colère de Dieu nous défend contre nos ennemis. Alors, qui sont vos ennemis à vous? Qu'est-ce qui nous menace dans la vie? Même si nous, les chrétiens, nous ne sommes pas une nation comme à l'époque de Nahum, même si nous ne sommes pas menacés par un pays hostile, malgré tout, ce texte s'applique à nous aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6 nous rappelle que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais Dieu nous délivre de nos pires ennemis. Vous voulez peut-être savoir comment il le fait? En fait, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a vaincu la mort par sa résurrection et qui a toute autorité au ciel et sur la terre. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous délivre de tout pouvoir spirituel néfaste. Vous voyez? Dieu nous délivre de la mort en nous donnant la vie au ciel par Jésus-Christ. Dieu nous délivre de notre propre nature pécheresse en nous donnant sa grâce. C'est en Jésus-Christ. Dieu nous délivre des mensonges du diable. Dieu nous délivre de nos peurs. Quand Dieu se venge contre ses ennemis et les ennemis de son peuple à l'époque de Nahum, Dieu se venge contre ses ennemis aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, tout ça, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons entrer au bénéfice de cette bonne nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Dieu commence cette victoire aujourd'hui. Et il assure l'achèvement de cette victoire quand son plan pour le salut des fidèles sera accompli un jour selon sa volonté. La colère de Dieu contre ses ennemis est une excellente nouvelle pour les croyants. Le début de Nahum chapitre 2 est là comme une annonce de joie, de célébration au milieu de la dévastation. La colère de Dieu contre le péché et les conséquences du péché est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Dieu est vainqueur de nos ennemis. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, notre Père, tu as mis tous tes ennemis sous les pieds du Fils victorieux. Seigneur, tu livres en spectacle tous tes ennemis, tout homme et ange qui s'oppose à toi, tout mensonge du diable, toute tentation de résister à ta grâce. Délivre-nous de nos ennemis, Seigneur, nos vrais ennemis. Donne-nous la joie de participer à la victoire de Jésus sur le mal. Au nom de Jésus. Amen.